Eh bien, non, sire mon cousin, je ne puis sceller. Car aujourd'hui nous avons en vous un fort bon roi, et je ne doute pas que vous agissez selon les sentiments que vous me dites. Mais vous ne durerez pas toujours, et moi moins longtemps encore. Il peut venir après vous, le plus tard possible, Dieu le veuille, des rois qui ne jugeront pas avec la même équité. Je suis forcé de penser à mes héritiers et ne puis les mettre à discrétion du pouvoir royal, pour plus que nous ne lui devons. » Si nuancé qu'en fut la forme, le refus n'en était pas moins catégorique. Louis, qui avait affirmé qu'il viendrait à bout de la comtesse par sa diplomatie personnelle, bien mieux que par grande audience publique, perdit rapidement patience. Sa vanité était en jeu. Il commença d'arpenter la chambre, éleva le ton, frappa sur les meubles, mais rencontrant le regard de Clémence, il s'arrêta, rougit, et s'efforça de reprendre un maintien royal. Au jeu des arguments, Mao était plus forte que lui. « Mettez-vous à ma place, mon cousin, » dit-elle. « Vous allez avoir un héritier, supporteriez-vous de lui transmettre un pouvoir diminué ?»« Eh bien, justement, madame, je ne lui laisserai pas un pouvoir diminué, ni le souvenir qu'il eut un père faible, à la parfum. » C'est trop me tenir tête, et puisque vous vous obstinez à m'affronter, je place l'Artois sous ma main. C'est dit. Et vous pouvez retrousser vos manches de robe, vous ne me faites point peur. Désormais, votre comté sera gouverné en mon nom, par un de mes seigneurs, que je vais y nommer. Quant à vous, vous n'aurez plus droit de vous écarter que de deux lieues des séjours que je vous ai assignés, et ne vous présentez plus devant moi, car je n'aurai point plaisir à vous voir. »
Le coup était de taille, et Mao ne s'y attendait pas. Décidément, le hutin avait bien changé. Les malheurs surviennent en série. Si brusquement congédié, Mao, sortant de l'appartement de la reine, tenait encore une dragée. Elle la mit machinalement en bouche et y mordit avec tant de violence qu'elle se fendit une dent. Pendant une semaine, Mao fut à Conflans comme un tigre en cage. De son grand pas masculin, elle allait des appartements d'habitation qui dominaient la Seine à la cour principale, entourée de la galerie, d'où, par-dessus les frondaisons du bois de Vincennes, on pouvait apercevoir les étendards du manoir royal. Sa rage ne connut plus de bornes lorsque le 15 mai, Louis X, mettant à exécution ses projets, nomma gouverneur de l'Artois le maréchal de Champagne, Hugues de Conflans. Mao vit dans le choix de ce gouverneur une volonté de dérision et comme un suprême outrage.
« Conflans ! Conflans ! » répétait-elle. « On m'enferme à Conflans et l'on nomme Conflans pour me voler mon bien !»
En même temps, sa dent cassée la faisait cruellement souffrir. Un abcès s'était formé. Sans cesse, Mao tordait la langue, ne pouvant se retenir d'aviver le mal. Elle déchargeait sa colère sur son entourage. Elle avait giflé pendant un office maître Régnier, chantre de la chapelle, pour une défaillance de voix. Jeannot le Follet, son nain, se cachait dans les encoignures, du plus loin qu'il l'apercevait. Elle s'emportait contre Thierry d'Hirson, qu'elle accusait, lui et son abusive famille, d'être la cause de tous les ennuis. Elle reprochait même à sa fille Jeanne de n'avoir pas su retenir son mari de courir au conclave.
« Que nous importe un pape » criait-elle. « Lorsqu'on est en train de nous dépouiller, ce n'est pas le pape qui nous rendra l'Artois !»
Un matin, elle apostropha Béatrice.
« Et toi, tu ne peux rien faire, non ? N'es-tu donc bonne qu'à me prendre mon argent, t'affubler de robe et tourner de la croupe devant le premier chien coiffé ? As-tu décidé de ne mettre d'aucune ressource ?»«
Comment, madame ? Les clous de girofle que je vous ai portés ne vous ont-ils point apaisé la douleur ?
S'agit bien de ma dent ! J'en ai une plus grosse à arracher, et tu en sais le nom ! Ah, quand il est question de filtre d'amour, tu t'agites, hein ! Tu te donnes de la peine, tu découvres des magiciennes ! Mais s'il me faut un vrai service ?
Vous oubliez, madame, vous oubliez bien vite comment j'ai fait enfumer messire de Nogaret, et ce que j'ai risqué pour vous.
Je n'oublie pas, je n'oublie pas. Et Nogaret aujourd'hui me semble petit gibier. »
Si Mao ne reculait guère devant l'idée du crime, il lui déplaisait fort d'avoir à l'exprimer précisément. Béatrice, qui la connaissait bien, mettait quelque perfidie à l'y obliger. La regardant à travers ses longs cils noirs, la demoiselle de Parage, de sa voix lente, vaguement ironique et qui traînait sur la fin des mots, répondit
« Vraiment, madame, est-ce si haute mort que vous souhaitez ?